Bonjour, c'est 2h30, hein, donc bon, je suis très contente d'être ici. Aujourd'hui, c'est mon premier cours après ma leçon inaugurale. Et donc, les cours, comme vous savez, l'argument du cours, c'est l'histoire des rôles de la Banque Centrale Européenne. Pendant la crise. Je m'excuse pour mon français, hein. J'espère que ça va être compréhensible. Et donc, le plan du cours est le suivant. Aujourd'hui, je commencerai à donner des bases pour la compréhension de ce que je vais. Des cours suivants. Donc, je vais parler du bilan de la Banque centrale. Comment on comprend le concept du bilan d'une banque centrale? Quel est le rôle de la Banque centrale par rapport au trésor, au reste de l'État? Et qu'est-ce que c'est la monnaie? Comment on doit comprendre qu'est-ce que c'est la monnaie dans l'ensemble du système financier? Et quel est le rapport de la Banque centrale, pas seulement par rapport à l'État, mais aussi par rapport aux banques commerciales. Et la prochaine fois, je vais tourner vers un cours un peu plus historique dans lequel je vais raconter l'histoire du traité de Maastricht qui a défini donc les cadres institutionnels sous lesquels se pose la Banque centrale européenne. Et donc, je vais un peu raconter l'histoire, comment moi je la vois, quels étaient les débats qui nous ont portés vers l'union monétaire, pourquoi on a fait ce choix et qu'est-ce qu'était la discussion et est-ce que cette discussion qu'on a faite dans les années 70-80 est encore une discussion qui a un sens aujourd'hui dans les débats sur la réforme de l'union monétaire européenne. Dans mon troisième cours, je vais parler avec des aspects plus opérationnels de la politique monétaire. Comment ça marche vraiment? Qu'est-ce que c'est la politique monétaire? Comment ça se effectue en pratique? Et après, sur la base de ces trois cours introductifs, je vais parler de l'histoire, de l'histoire de la crise. Et donc, je commence en 2007 avec les premiers symptômes de la crise financière mondiale. Et je vais parler de comment la Banque centrale européenne a fait face à un problème qui n'était pas seulement un problème de politique monétaire, mais un problème plus vaste de garantir la stabilité financière dans la zone européenne. Donc ça va être deux cours, donc la quatrième et la cinquième leçon. Et dans la session 6, je vais parler des choses de la politique monétaire plus récemment, ce qu'on appelle la supplément quantitative, le quantitative easing. Et dans la leçon 7, je vais parler du rôle de la BCE plus récent, à partir de 2014, comme superviseur des banques commerciales. Et donc, peut-être là, il y aura quelqu'un qui est un expert dans ces sujets qui va m'aider pour ouvrir cette discussion qui est un peu plus difficile à faire parce que c'est vraiment, l'histoire est très, très récente. On a simplement 3-4 ans de données pour pouvoir donner un cadre. C'est encore un thème très ouvert, en fait. Et donc, à la fin, la huitième leçon, ce sera un bilan dans lequel, sur la base de cette discussion, on pourrait discuter quelles sont les propositions de réforme de l'EMU, de l'Union monétaire européenne, la proposition française, les critiques à la proposition française, quelle est la discussion sous la table de nos politiciens aujourd'hui et comment les citoyens doivent participer de façon informée à cette discussion. Donc voilà, ça c'est le but de mon cours. Donc si mon français est complètement incompréhensible, je vais parler italien. Ok. OK. Dans ma conférence inaugurale, j'ai commencé par un graphique qui décrit la taille du bilan de la Banque centrale, l'évolution historique. Okay, ça, c'est une moyenne dans tous les pays développés pendant le temps. Donc, on commence à 1900 et on arrive au temps récent. Et comme vous voulez, comme on peut voir dans cette graphique, les bilans, qui donc est exprimé comme les ratios entre les actifs du bilan de la Banque centrale et les PIB, augmentent pendant les guerres. Donc, vous voyez ce pic-là, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, un petit peu aussi pendant la Première Guerre mondiale, et après, pendant la dernière crise financière. Donc, évidemment, ce graphique ne dit pas pourquoi les bilans augmentent, mais donne déjà l'intuition que pendant des crises financières, comme pendant la guerre, il y a des actions spéciales de la Banque centrale. Et ces actions spéciales ont comme effet que les bilans augmentent. Et donc, il y a immédiatement des questions qu'on peut se poser. Dans ces périodes exceptionnelles, les banques centrales font des choses exceptionnelles, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils financent les États? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de financer les États, de fournir du financement pour des actions extraordinaires du Trésor ou des actions extraordinaires pour soutenir des segments du secteur financier. Est-ce que c'est ça qui est derrière cette histoire? Et si c'est ça, quelle est la particularité de la Banque centrale? Pourquoi elle est mise dans cette position dans laquelle elle peut faire ce que cette graphique suggère? Et donc, pour comprendre cette question, que c'est une question très compliquée, en fait, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le bilan de la Banque centrale et qu'est-ce que c'est la monnaie. Et donc, oui.
Quels sont les pays qui sont consolidés?
Ils sont les pays de l'OCDE. Donc, c'est la plupart des pays de l'OCDE, pas les tous, sont 12 pays de l'OCDE, en fait. Donc, les pays développés, disons. Donc, dans mon cours aujourd'hui, j'espère de pouvoir couvrir le cours en trois parties. La première partie, qui est la plus importante, dans laquelle je poserai la question, quels risques pose un bilan trop important de la Banque centrale et est-ce que la Banque centrale peut faire faillite? Est-ce que c'est possible? Et donc, j'expliquerai un peu comment ça marche, les bilans, les conseils de solvabilité de la Banque centrale. Et ça, c'est important parce qu'après, dans les cours 4, 5 et 6, quand j'expliquerai les rôles dans la crise, je vais retourner, ces conseils vont être utiles pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Dans la deuxième partie, je me poserai la question de quelle est la relation entre la taille du bilan de la Banque centrale et la monnaie en circulation. Et alors là, on verra qu'en fait, la Banque centrale a un rôle très important pour déterminer la monnaie en circulation, mais que fondamentalement, ce sont les banques commerciales qui ont les rôles les plus importants dans la détermination de la monnaie. Et donc, étant donné qu'on pense que la monnaie en circulation peut avoir, dans le long terme, une relation avec l'inflation, donc, comment on peut penser quel est le rôle de la Banque centrale et les banques commerciales ont dans ces domaines-là? Et donc, quel est le rôle que la Banque centrale doit avoir dans sa relation avec les banques commerciales, étant donné l'importance des banques commerciales dans la création des monnaies? Et dans la dernière partie, je vais développer encore cet argument-là et je vais parler du problème, mais seulement toucher très rapidement, les rôles de la Banque centrale dans la réglementation préventive des banques et aussi dans sa fonction de gestion des crises, ce qu'on appelle sa fonction de prêteur de dernier recours par rapport au système financier. Donc, on commence par la première partie et je vais immédiatement passer à un bilan très stylisé de la Banque centrale. Donc, vous avez ici donc des actifs et des passifs, comme j'imagine dans votre bilan à vous. Et dans les actifs, on a de avoirs extérieurs, donc foreign exchange. Les prêts à des banques commerciales, donc les banques centrales fournissent des prêts à des banques commerciales et des titres, que ce peut être des titres privés ou des titres souverains. Aux côtés des passifs, on a la devise, enfin j'espère que ça peut être des espèces et les billets, et donc c'est les billets que vous avez dans votre poche. Et aussi, la plus grande partie dans les passifs sont les dépôts des banques commerciales, sont les dépôts que les banques commerciales ont auprès des banques centrales. Ça s'appelle les réserves. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est en circulation, parce que c'est seulement les banques qui peuvent déposer à la banque centrale, ce n'est pas moi ou vous qui pouvez le faire autant qu'individu. C'est simplement les banques. Et après, il y a aussi des dépôts du gouvernement et les capitaux, la valeur nette. Donc ici, la devise, en fait, le cash, le currency, on dit en anglais, et les dépôts, l'ensemble des dépôts, ça s'appelle la base monétaire. Donc ce n'est pas vraiment la monnaie qui est en circulation, parce que, comme je l'ai dit, les dépôts ne sont pas en circulation. Mais ça s'appelle la base monétaire parce que c'est quelque chose sur laquelle la banque centrale a une certaine influence. Okay? Elle peut influencer les réserves les réserves. Évidemment, elle peut influencer les devises parce que bon, c'est la banque centrale qui les produit matériellement. Okay? Donc, la monnaie des banques centrales s'appelle base monétaire et c'est un passif dans les bilans de la banque centrale et a ses deux composantes. La devise, donc elles sont des espèces et des billets créés sous son autorité. Donc la Banque centrale a le monopole de créer ces billets. Malheureusement, nous, on ne peut pas les créer dans notre basement. Okay? Donc c'est la Banque centrale autant que souverain, qu'autorité souveraine qui peut faire ça. Et les réserves, qui sont plutôt des monnaies électroniques, parce que ce sont des dépôts, donc ce n'est pas vraiment des choses matérielles qui se passent entre les banques et la banque centrale, mais c'est une monnaie électronique comme les dépôts. Donc, la base monétaire, et c'est très important de comprendre qu'est-ce que c'est la base monétaire, parce que c'est un passif. Okay, c'est un débit dans les bilans de la Banque centrale. Ils sont donc des crédits pour quelqu'un d'autre. Ils sont des crédits pour du public. Donc, si vous avez un billet dans votre poche, vous êtes créditaire par rapport à la Banque centrale. Et les banques aussi sont des créditaires quand ils ont des réserves chez la Banque centrale. Donc, la Banque centrale est un débiteur évidemment très, très fiable. Parce qu'elle ne peut pas faire, en principe, en termes nominaux, elle ne peut pas faire défaut. Parce qu'elle peut toujours honorer sa dette en émettant plus d'argent, plus de monnaie. Elle peut toujours créer plus de monnaie pour honorer sa dette. Donc ça, c'est très différent de nous, parce que pour honorer notre dette, on ne peut pas créer plus de monnaie pour honorer notre dette, parce qu'on n'a pas la légitimité de créer de la monnaie. Donc, la légitimité de la Banque centrale est un concept très important qui est très lié à la valeur de la monnaie. Donc, ça, c'est vrai, naturellement, en termes nominaux, parce que la valeur de la monnaie peut changer si les prix changent. Okay? Donc, il faut distinguer entre la valeur nominaux, disons la monnaie M, ça, c'est la, donc, c'est 100 euros, mais combien de biens et services on peut acheter avec 100 euros, ça dépend du niveau des prix. Et donc, ça, c'est le concept de la valeur réelle de la monnaie. Okay? Donc, en termes nominaux, donc, elle ne peut pas faire de faute, mais en termes réels, c'est produit une situation dans laquelle la valeur de la monnaie est zéro, si les prix sont très élevés. Donc, de nos jours, nous sommes dans un système de monnaie fiduciaire, qui s'appelle fiat money. où l'expansion de la base monétaire est contrainte uniquement par des règles que les banques centrales se sont engagées à respecter. Par exemple, la stabilité des prix. Donc, beaucoup de banques centrales à nos jours sont des banques qui suivent les inflation targeting. Donc, ils ont un objectif en termes d'inflation. Donc, la banque centrale peut faire ce qu'il veut du moment qu'elle respecte son objectif d'inflation. En principe, s'il ne respecte pas, les trésors, le Parlement, ça dépend de la configuration constitutionnelle, peut dire au gouverneur, vous allez partir de votre fonction parce que vous n'avez pas respecté l'objectif auquel vous vous êtes engagé. Mais donc, à part le respect de cet objectif, que donc en Europe, c'est un objectif de stabilité des prix, mais aux États-Unis, par exemple, c'est un objectif en termes d'inflation, mais aussi de chômage, du taux de chômage. Mais à part pour le respect de cet objectif, les banques centrales peuvent émettre toute la monnaie qu'ils veulent. Okay? Il n'y a pas de limite. Okay? Quand il y avait, par exemple, quand la monnaie était liée à l'or, donc le gold standard, donc évidemment, il y avait une limite parce que la monnaie dans les poches des citoyens devait être convertible avec l'or ou avec l'argent, avec un métal, quelque chose de tangible. Okay? Aujourd'hui, il n'y a plus de ces limites. Ça s'appelle la monnaie fiduciaire. Donc, cette capacité de créer la monnaie donne aux banques centrales un énorme pouvoir. Parce qu'en créant la monnaie, les banques centrales peuvent fournir des prêts aux banques insolvables, par exemple, ou ils peuvent fournir des prêts à des souverains insolvables. Et c'est pour ça, en fait, que en fait, c'est exactement ce qui se passe. Donc, pendant les guerres, et si j'avais eu les graphiques aussi pendant les guerres napoléoniques, vous verrez que aussi les bilans de la Banque centrale augmentaient énormément. Pourquoi Napoléon avait besoin d'imprimer de la monnaie pour financer les guerres? Donc, une crise financière, c'est quelque chose de très similaire. C'est très similaire. Donc, c'est très important de comprendre comment ça marche, mais aussi les risques qu'il comporte. OK? Alors, revenons à la monnaie des banques centrales ici, et donc parlons un moment de réserve. Je vais un peu plus dans les détails. Donc, les réserves, comme j'ai dit, c'est une forme de monnaie électronique. C'est échangeable un à un, one to one, avec la devise, avec les espèces, avec cash et billets. Ne peuvent être détenus qu'à par des banques reconnues par la Banque centrale. Donc, la Banque centrale décide quelles sont les banques qui ont les droits de se relationner avec elles. Ne peuvent être émises que par la Banque centrale. Donc, la Banque centrale peut aussi décider les taux d'intérêt à payer sur ses réserves. Il y a des banques centrales, surtout avant la crise, qui ne payaient pas d'intérêt sur les réserves. Aujourd'hui, la plupart des banques centrales payent un intérêt sur les réserves que les banques commerciales ont sur la banque, dans les banques. Et donc, ça, c'est une utile de politique monétaire. Donc, un agent privé non bancaire, comme nous, on ne peut pas retirer un dépôt bancaire sous la forme des réserves, mais il peut les retirer du système bancaire des banques commerciales en forme de devises. Et évidemment, les réserves ils sont sans risque de défaut en valeur nominale parce que, comme j'ai dit, les banques centrales ne peuvent pas faire défaut. Donc, une fois qu'on a compris ça, on peut se poser la question de comment la banque centrale crée la monnaie, comment elle est créée. Alors, c'est important de comprendre que les banques centrales sont les seules capables de fournir des devises. Donc, on a le monopole, elles ont le monopole. Et donc, lorsqu'elles fournissent la devise aux banques, okay, qu'est-ce qui se passe? Donc, que le montant est déduit du compte des banques auprès de la banque centrale. Donc, il y a un changement des réserves. La banque centrale donne du cash aux banques, qui après donc, les donne aux clients. Et quand ça, dans cette opération, qu'est-ce qui se passe? Que donc le compte de réserve est changé de conséquences. Donc, toutes les transactions avec les banques, par exemple achat et vente des titres, entraînent une modification de l'actif et de la dette des banques centrales, donc une modification des réserves. De nos jours, la banque centrale crée la monnaie en changeant les réserves. Elle paie aussi en imprimant les papiers, donc, mais ce n'est pas vraiment comme ça qu'on crée de la monnaie, c'est surtout à travers les réserves qu'on crée base monétaire. Évidemment aussi, les devises, ils croient dans le temps parce que les PIB croient dans le temps, donc aussi cash and coins, les devises croient aussi, mais la dynamique des réserves est plus importante. Donc, la banque centrale émet des réserves aux banques en échange de l'achat des titres, donc ça s'appelle opération de open market. Je ne sais pas comment on dit en français. Donc, mais bon, c'est l'achat et la vente des titres. Hein? Opération de marché, OK. Ou de l'octroi d'un prêt de quelques jours qui s'appelle opération de refinancement. Et les banques peuvent échanger, comme j'ai dit, les réserves contre la devise. Donc, dans le passé, les banques centrales pouvaient acheter des obligations directement, des obligations souveraines directement du trésor. Donc, ils étaient vraiment... financer directement les trésors. Ça, c'est interdit aujourd'hui, pas seulement en Europe, mais dans les pays développés, c'est interdit. Et c'est illégal. Et ça, évidemment, parce qu'on veut éviter une pression sur la banque centrale pour les besoins des caisses du trésor. Donc, si... maintenant, donc, il y a ce bilan ici. Est-ce que la banque centrale peut faire un profit? Les banques centrales, comme toutes les autres banques, tirent un revenu de leurs actifs. Et dans ça, c'est les taux d'intérêt sur les titres qu'ils ont dans leurs actifs. Et ils ont évidemment un coût de fonctionnement de la boîte et un coût aussi si elles payent un intérêt sur les réserves. Et la BCE, effectivement, paye un intérêt sur les réserves. Si l'écart entre les coûts de financement et les rendements de l'actif est positif, alors la banque centrale a un profit. Et ça, on appelle ces profits les seigneurages, c'est-à-dire les droits du seigneur. C'est, en fait, c'est un terme qui provient du français. Donc, c'est seigneurage en anglais, donc c'est droits du seigneur. Et voilà, donc je vais l'illustrer ici. Dans la façon la plus simple, ça c'est le seigneurage sur la monnaie, sur la partie des monnaies qui n'a pas sur laquelle on paye pas, la banque centrale ne paye pas un intérêt. Donc le gouvernement imprime de l'argent, le gouvernement par gouvernement je vais dire la banque centrale parce qu'il fait partie du gouvernement et combien ça coûte produire l'argent? Ça coûte presque rien. Okay? Le coût, c'est presque zéro. Et avec ces coûts, enfin, ça achète, pas les marchandises, je pense qu'on dit les biens et services, hein, les biens et services, un niveau du prix donné, donc à un certain prix. Les revenus du gouvernement, sont qu'on appelle S, comme seigneurage, c'est le changement de la base monétaire, enfin, that's monetary base, mais en fait, c'est la base monétaire, divisée par les niveaux de prix. Ça, c'est la définition plus simple de seigneurage sous l'émission de monnaie. Il y a aussi une autre définition, qui est la définition de la taxe sur l'inflation. Okay? La taxe sur l'inflation, c'est inflation tax. Sur les détenteurs de monnaie, on peut penser à l'inflation. Que c'est paille avec le grec, okay, le pi grec. C'est un impôt. On peut penser à l'inflation comme un impôt. Un impôt sur quoi? Sur la base monétaire. Si vous avez de l'argent dans votre poche, cet argent va valoir moins si l'inflation monte. Donc, vous pouvez penser à l'inflation comme une taxe. Donc, en fait, la définition de inflation tax, c'est l'inflation multipliée par la base imponible, qui donc c'est la base monétaire divisée par les prix. Maintenant, étant donné que les taux de croissance de la base monétaire divisé par les prix, c'est aussi égal à le taux de croissance de la base monétaire multiplié par la base monétaire divisé par les prix. Et si on pense qu'à long terme, mais ce n'est pas forcément le cas, mais les économistes, surtout les économistes classiques, on a toujours postulé que le taux de croissance à long terme de la base monétaire est égal au taux d'inflation, alors en faisant une petite substitution ici, on peut voir que l'inflation tax, la taxe sur l'inflation, est exactement égale à seigneurage. Donc, la Banque centrale fait des outils en taxant les détenteurs de monnaie, que donc whoever keeps the cash. OK? Ça, c'est le concept plus simple, mais on verra que les choses sont un peu plus compliquées. Donc, le seigneurage correspond à la différence entre la valeur de l'argent et son coût de production et de distribution. Ça, c'est une description très stylisée, mais si vous allez regarder dans les comptes de la BCE ou de la Banque de France, vous verrez qu'en vertu des règles régissant les opérations monétaires des grandes banques centrales, le seigneurage sur les billets des banques se définit simplement comme les paiements d'intérêt reçus par les banques centrales sur le montant total de la monnaie émise. Cela prend généralement la forme des paiements d'intérêt sur les obligations du trésor achetées par les banques centrales et qui met plus de monnaie, qui met plus de monnaie en circulation. Okay? Donc, si on émet beaucoup de billets, plus de monnaie, la banque centrale fait plus d'argent. Okay? Bon, ça, c'est en anglais parce que je l'ai pris du website de la BCE, mais je pense qu'il y a une version française aussi, probablement dans la Banque de France. C'est très clair ici, « The bank notes in your pocket, have you ever wondered where they come from? » Où est-ce qu'ils vont? Quelle est la provenance, l'origine? So the euro bank notes are developed by the ECB, donc ils sont développés par la BCE, manufacturés à des printing works, que je ne sais pas où c'est. Et then stored in the vault at your country central bank. Donc ils sont, ceux qui ont les trucs français souvent, ils sont à la Banque de France, à l'Italie, à la partie italienne, etc. They make their way to you via your bank. Donc, comment ils arrivent chez vous? À travers les banques commerciales, which pays the face value of the notes to the central bank. Donc, la banque commerciale paye à la banque centrale. To do this, your bank usually needs to borrow money from the central bank. C'est la banque commerciale qui emprunte de l'argent auprès de la banque centrale. Et comment ils payent avec des securities, des short terms, c'est des titres. Et donc, ces taux d'intérêt des titres, c'est donc un revenu pour la banque centrale. Donc, la banque centrale a un énorme pouvoir parce qu'il produit quelque chose à coût zéro, mais il obtient un revenu pour ce qu'il produit. So, the central bank earns interest on the money lends, donc il a cet intérêt. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ses revenus? Donc, à la fin de l'année, il les redistribue au trésor. Donc, si vous voulez, le trésor a un intérêt à dire à la banque centrale, produisez beaucoup de monnaie, parce que à la fin de l'année, les seigneurages, donc ces revenus des seigneurages, ils rentrent au trésor, donc ils reviennent au taxpayer, donc c'est nous. Donc, c'est un problème de redistribution, en fait. Donc, ce qui est spécial dans le bilan de la Banque centrale, c'est que les passifs monétaires sont des passifs seulement nominalement, ils sont irremboursables. Le détenteur de base monétaire ne peut à aucun moment assister pour les rachats d'un montant donné des bases monétaires en somme autre que le même montant. S'il n'y a pas de taux d'intérêt sur les réserves, donc voilà. Et ça, c'est quelque chose de très important pour ce qui concerne les conseils de solvabilité de la Banque centrale. Donc, je vais revenir sur ce point. Et donc, on va immédiatement à la question suivante. Une fois qu'on a compris ça, est-ce qu'une banque centrale peut faire faillite? Donc, étant donné que la banque centrale peut créer les moyens de rembourser sa dette, et sa solvabilité doit être comprise de manière différente de celui d'une entreprise normale. En principe, il n'y a pas de limite à ce qu'une banque centrale peut emprunter. Une banque centrale, en fait, peut avoir un capital négatif. Et peut avoir un capital négatif sans être insolvable. En fait, dans l'histoire, il y a beaucoup d'exemples de banques centrales qui ont fonctionné avec un capital négatif. Mais par conséquent, si on veut se poser la question de quelle est la mesure de santé financière d'une banque centrale, il faut raisonner de façon un peu différente que dans la situation, dans le cas d'une entreprise comme une banque commerciale. Donc, les conseils habituels des bilans excluent la source des revenus futurs la plus importante pour la banque centrale, que c'est la valeur actualisée des bénéfices actuels et futurs, donc le present discounted value, hein, la valeur actualisée des bénéfices actuels et futurs, tirée de sa capacité à émettre des emprunts sans taux d'intérêt. Donc ça, c'est une source de revenus parce que donc, dans le présent et dans le futur, elle a cette ressource cachée, si vous voulez. Donc là, c'est qui vient de sa habilité de créer de la monnaie, donc d'avoir un revenu pour cela. Et donc la solvabilité, donc ce qu'on appelle la contrainte budgétaire intertemporelle, exige que la valeur actualisée du seigneurage actuel et futur dépasse la valeur actualisée des futurs coûts liés au fonctionnement de la banque centrale et au futur paiement net au trésor du seigneurage, d'un montant supérieur à la valeur négative de la valeur nette financière conventionnelle. Donc, en fait, on a cette ressource en plus, que sont cette revenu futur qui dépend de la demande des monnaies du public. Et donc, tout ça dépendra aussi de l'évolution du PIB. Okay, donc, de l'évolution du PIB et de la demande de monnaie du public qui dépendra des taux d'intérêt et autre chose. Okay? Mais on peut faire des projections. Je vous montrerai des calculs quand je passerai à la description du cas de la BCE à nos jours sur comment on peut, sur combien on peut estimer cette valeur cachée dans les bilans de la BCE. Okay, donc, c'est la valeur du seigneurage présent et futur actualisé. Donc, en résumé, dans un système non-fiat, non-fiduciaire, comme les gold standards, la solvabilité implique que les avoirs durs, l'or par exemple, doivent toujours être suffisants pour pouvoir être échangés contre des devises en taux convenu. Dans un système fiat, fiduciaire, il n'y a aucune promesse de rachat des billets contre une quantité donnée d'or ou des autres actifs. Donc, ces passifs sont essentiellement notionnels. Dans un tel système, la banque centrale peut toujours payer ses factures en imprimant de l'argent. En ce sens, elle ne peut pas être insolvable. Par contre, payer ses factures en imprimant de la monnaie pourrait manifestement nuire aux objectifs des banques centrales en matière de contrôle de l'inflation. Et c'est ça la contrainte. La contrainte, ce n'est pas la contrainte de solvabilité traditionnelle, parce qu'elle peut toujours imprimer plus de monnaie. Mais si en faisant ça, elle va contre l'objectif que constitutionnellement, c'est donné, c'est, donc, son objectif, sur lequel est aussi évalué par le Parlement, etc. Alors, donc, c'est ça vraiment le concept effectif de solvabilité. Donc, je définirais la chose comme ça. Une banque centrale pourrait être insolvable seulement dans le sens où, avec la croissance monétaire et donc l'inflation au niveau qu'elle visait, elle ne gagne pas suffisamment de seigneurage pour couvrir ses obligations des paiements et ne comblera pas l'écart à l'avenir. Donc ça, c'est la vraie conception de solvabilité de la banque centrale. Donc, rappelons-nous donc, l'idée du inflation tax et seigneurage. Donc, c'est cette égalité que j'avais décrite avant. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Une inflation plus élevée, si donc je vais augmenter les seigneurages et ça génère plus d'inflation. Donc, au début, moi, je gagnerai. Parce que ça augmente, donc les seigneurages augmentent, et donc je peux couvrir mes pertes. Mais si en augmentant l'inflation, à un certain moment, la base monétaire diminue, parce que le niveau de prix s'est augmenté, donc la base imposable diminue, donc cette augmentation de l'inflation, ça devient inutile. Parce qu'il y a un moment dans lequel il y aura un certain morceau pour un certain au début donc j'augmente l'inflation, les seigneurages augmentent, mais à un certain moment si l'inflation augmente tellement que la base imposable diminue, ça devient self-defeating, ok? Donc les seigneurages dans ces moments, ça va aller vers zéro. Donc, dans ces cas-là, c'est un cas dans lequel l'inflation est tellement élevée. Donc, on parle dans ces cas-là des cas vraiment limites qu'on n'a jamais vus dans l'après-guerre dans nos pays. Mais c'est des cas qu'on a vus dans l'histoire. Par exemple, en Allemagne, pendant la République de Weimar, dans lequel, ça, c'est un cas d'hyperinflation dans lequel le gouvernement allemand pour financer ses besoins, imprimer de la monnaie. Les seigneurages ont augmenté sur un certain niveau d'augmentation de la monnaie, mais à un certain moment, la chose a échappé parce que l'inflation a porté la valeur de la monnaie vers zéro. Donc, quand la valeur de la monnaie est zéro, personne ne veut détenir de la monnaie, donc on revient au barter, ok? On revient au troc. Voilà. Et voilà. Et donc, et ça, c'est la situation dans laquelle donc on peut jouer avec des montants de papiers, mais c'est que des papiers, ça n'a aucun valeur. Mais ça, c'est vraiment une situation de crise fiscale plus que monétaire. C'est une situation dans laquelle l'État n'a pas la base imposable pour financer ses besoins et donc recourt à la chose de dernière instance, que donc c'est imprimer de la monnaie. Donc c'est un cas limite qu'il faut comprendre, mais ce n'est pas un cas qui est très réaliste à nos jours. En fait, dans nos jours, le problème est exactement le contraire, que l'inflation est trop faible. Et la Banque centrale européenne cherche de la faire monter et l'inflation ne monte pas, ok? Donc, il faudra comprendre pourquoi, qu'est-ce que c'est dans cette histoire qui aujourd'hui, quelle est l'actualité de cette histoire. Ok, mais donc quelles sont il y a deux sources, si vous voulez, de creditworthiness pour la banque centrale. Donc, pour maintenir sa solvabilité, la banque centrale a deux moyens de le faire. La première, donc, c'est sa capacité à mettre des engagements monétaires ayant cours légal, donc diluer la valeur de l'argent aux dépenses des détenteurs d'argent. Ça, c'est le seigneurage. La deuxième manière, c'est de dire non, je ne vais pas faire ça parce que ça va contre mon objectif en termes de stabilité des prix. Donc, la deuxième façon de le faire, s'il y a un problème de creditworthiness pour la banque centrale, c'est de s'appuyer sur le pouvoir des collections d'impôts de son propriétaire. Et qui est son propriétaire? C'est l'État. Donc, il peut demander au gouvernement de la recapitaliser. Donc, le gouvernement peut lui donner les fonds pour recapitaliser la Banque centrale. Et comment va faire ça le gouvernement? En taxant les citoyens. Donc, c'est le taxpayer, donc c'est les contribuables, les contribuables actuels et futurs qui vont financer la recapitalisation des banques centrales. Donc, les principes fondamentaux de cette discussion est de dire que c'est notionnellement, il n'y a pas de limite sur la solvabilité de la banque centrale, mais en fait, il y en a, parce que il y a la limite de la stabilité des prix. Et donc, à la fin, des fiscal capacity, les soutiens fiscaux de la banque centrale, c'est fondamentalement le trésor. Et c'est, encore une fois, la capacité des contribuables de payer les impôts qui va soutenir ces bilans que vous avez vus dans les premières graphiques. Donc, et le soutien fiscal donc est limité parce que donc les moments dans lesquels les citoyens ne peuvent pas payer les impôts, ok, donc il y a seulement la possibilité de seigneurage dans la limite donc d'hyperinflation. Donc tout ça pour dire que quand un bilan de la banque centrale augmente comme on a vu, il faut quand même se poser la question de quel est le risque pour nous tous de ce qu'il est en train de faire. Et maintenant, donc, il y a, c'est un problème compliqué. Il y a les Allemands qui pensent que c'est un risque impossible, qu'on va tous retourner dans la situation de Weimar ici. Et il y a les Italiens et les Français qui sont un peu plus relax. Okay? Donc, à la fin du cours, on va se former notre opinion à nous. OK. Donc, l'autre... Oui, l'autre conseil maintenant donc, qui dérive de ça, c'est quelle est la relation entre politique fiscale et politique monétaire donc. Parce que, bon, on a parlé de la relation entre la Banque centrale et le Trésor, donc la question qui suit, bien, quelle est la relation entre politique fiscale et monétaire? Alors ici, j'ai une petite expression qui décrit la contrainte budgétaire pour l'État. Qu'est-ce que c'est la contrainte budgétaire? Donc, on a parlé de la solvabilité de la Banque centrale. Donc, il y a cette aussi... OK, je décris ça. C'est pour l'État, quelle est la contrainte budgétaire? Alors, l'État donc, aura la dette, on appelle B, divisée par les niveaux des prix. Donc, c'est le niveau de la dette réelle qui doit être égal aux valeurs actualisées nettes du surplus primaire futur. Okay, le surplus primaire, c'est le surplus du gouvernement, okay, du trésor, et sans considérer les intérêts qu'on paye sur la dette. Okay? Donc, ça, c'est les conseils de surplus primaire ou déficit primaire. Donc, si dans le futur, on a la capacité de générer un surplus. Donc, qu'est-ce que c'est un surplus? C'est une situation dans laquelle les impôts que je reçois de mes citoyens sont supérieurs aux dépenses. Donc, dans les futures valeurs futures actualisées, si ça, donc ça, c'est la limite. Donc, ça doit être, pour avoir la solvabilité, cette valeur actuelle nette de surplus primaire futur doit être égale à la dette réel. Okay, ça, c'est la contrainte budgétaire intertemporelle du gouvernement. Alors, dans cette petite expression, on peut considérer deux cas qui donnent une idée de la relation entre la politique fiscale et la politique monétaire. Si le gouvernement est un gouvernement très, très bien, comme le gouvernement allemand, par exemple, qui dit... qui donc a bien en tête ses contraintes budgétaires et donc va ajuster son surplus en réponse à la dette. Donc, si la dette augmente, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un peu plus de surplus pour honorer la contrainte. si la dette diminue, alors on peut être un peu plus laxe, on peut diminuer les surplus ou les déficits. OK, ça, c'est une situation dans laquelle le gouvernement suit une règle fiscale et la banque centrale, elle s'occupe des niveaux du prix. Et donc, il aura, par exemple, l'objectif d'avoir 2% d'inflation, et donc, elle fixera les prix de façon qu'on verra comment elle le fait en pratique, mais donc, elle fixera les prix par rapport à ses objectifs, et s'en fout complètement de ce que le gouvernement est en train de faire. Donc, les deux trucs sont séparés. On a une banque centrale indépendante qui fait la politique monétaire et le trésor qui fait son truc. Mais il y a aussi un deuxième cas dans lequel les gouvernements établit le surplus ou le déficit plutôt qu'il veut établir parce qu'il a des besoins de financer les pensions, la guerre, sauver les banques, n'importe quoi. Et donc, il détermine de façon exogène, enfin, par rapport à ses besoins, les déficits ou les surplus. Et donc, qu'est-ce qui doit s'ajouter pour garantir la contrainte intertemporelle? Donc, quand on ajoute les surplus, évidemment, la dette s'ajuste de façon immédiate parce que bon, le surplus, c'est un flow. Donc, la dette est la somme des surplus ou des déficits. Donc, c'est un stock. Donc, la seule chose qui peut s'ajouter, c'est le niveau du prix. Donc, si c'est le gouvernement qui est dominant dans ce jeu entre les deux, la banque centrale et le gouvernement, c'est les prix qui s'ajustent à une action fiscale. Donc, l'inflation ne dépend pas seulement de la banque centrale, de l'action de la banque centrale, mais ça dépend aussi de l'action du gouvernement. C'est pour ça que... Donc, on va voir que les prix doivent s'ajouter, donc les seigneurages augmentent, les seigneurages viennent distribuer au trésor, et donc ça, c'est un revenu pour le trésor, et donc la contrainte budgétaire est honorée de ces façons-ci. Donc, évidemment, ça, ce n'est pas une bonne situation, parce que c'est une situation dans laquelle l'inflation peut augmenter sans contrôle. Et c'est pour ça que, pour éviter ce genre de situation, qu'on a décidé que les banques centrales doivent être indépendantes et doivent pouvoir dire non au trésor. Okay? Mais évidemment, ça, c'est une situation très stylisée. Hein? Et la banque centrale européenne, en Europe, on a une des banques centrales les plus indépendantes dans le monde entier. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents. Ça fait partie de ce cours, ouvrir cette discussion. Donc, la situation 2 s'appelle une situation de fiscal dominance, dans laquelle le niveau des prix n'est plus déterminé par la banque centrale, mais est déterminé par le trésor. L'importance de ces discussions, c'est donc qu'il y a une interaction entre politique monétaire et fiscale, que c'est essentiel pour comprendre comment l'union monétaire fonctionne. Okay? Donc, ça fait partie de notre... OK. Donc, évidemment, les trésors et la banque centrale ont des objectifs différents. Les politiques monétaires et fiscales ne sont pas définies conjointement. Il y a cette interaction de facto. Donc, il faut régler. Donc, la façon dans laquelle l'autorité fiscale et l'autorité monétaire interagissent doit être réglée par une conception institutionnelle robuste. Et bon, dans la construction de l'euro, ce qui est sorti du traité de Maastricht, on le verra la semaine prochaine, c'est une conception très particulière. Qui est très extrême parce que donc dans ces concessions, on a une banque centrale très indépendante, on a des règles fiscales qui sont les règles de la Stability Growth Pact, qui en principe interdit au gouvernement de s'endetter trop ou de faire trop de déficits. Mais comme vous savez, tout le monde s'en fout. Donc tout ça aussi, c'est un peu à discuter. OK. Voilà, donc ça, c'est terminé ce petit sujet ici. Donc, je vais toucher une autre. Je suis toujours sur ma première partie. On a parlé de la BCE, mais nous, on est dans un système fédéral. Donc, il y a la BCE, mais il y a aussi la Banque de France, la Banque d'Italie, la Deutsche Bank et tout ça. Donc, quelle est la relation entre notre banque centrale fédérale qui est à Francfort et les banques centrales nationales? Donc, les banques centrales nationales sont actionnaires de la BCE et contribuent au capital en fonction du PIB et de la population de leur pays. Les opérations de politique monétaire sont faites au niveau des banques centrales nationales, mais, très important, les revenus et les pertes sont mises en commun. Donc, si la Grèce va faire des choses un peu doutables, les pertes de la Grèce sont mises en commun avec toutes les banques centrales de l'eurosystème. Okay? Donc, la même chose, si la Grèce ne va pas faire faillite, mais va gagner beaucoup d'argent parce qu'ils ont, sous les titres du gouvernement grec, sous les rendements de ces titres, enfin, j'ai fait un cas enfin, comme ça qui n'est pas très réalistique, alors aussi, ces utiles ils vont être rétribués entre les membres de l'eurosystème, donc les banques centrales nationales. Étant donné que les revenus, donc les seigneurages des banques centrales nationales reviennent au gouvernement, donc si la Banque de France gagne de l'argent, ça revient à vous. Si la Banque d'Italie revient, gagne de l'argent, ça revient à moi. OK? Donc, mais donc, il y a, dans l'Union monétaire, il y a cette conception donc, des partages des risques. De partage des risques. Ce qui rend, dans des moments de crise, rend certains pays, les pays créditeurs, un peu inquiets. Okay? Par exemple, ça, c'est le compte de résultats de la Banque de France. Donc, vous voyez, je pense que c'est 2016, ça. Vous voyez que la Banque de France a un profit net de 3 300 millions. Donc, c'est pas mal. Hein? Et où c'est le seigneurage aussi? Donc, les profits qu'elle fait sous la monnaie. Donc, ça s'appelle Net Result from Pool Monetary Income. Ça, c'est le revenu monétaire. Et ça, c'est négatif. Et pourquoi c'est négatif? Parce qu'évidemment, la Banque de France gagne de l'argent avec les devises qu'il produit, mais les utiles, donc, ils vont dans les pool commun dans l'eurosystème. Et après, la Banque de France reçoit donc, sa partie en rapport à sa taille, donc sa partie dans le capital qui dépend du PIB de sa population. Donc, un revenu monétaire négatif implique que la Banque de France a mis en commun plus de revenus monétaires que ce qui lui avait été attribué. Mais heureusement, ça, c'est une petite partie parce que le seigneurage, c'est très petit par rapport aux autres chiffres. Par exemple, les intérêts sur des titres en euros, qui sont des titres soit privés ou publics, ils sont énormes. Pourquoi sont énormes? Parce que la taille maintenant du bilan de la Banque centrale est très élevée. Donc, vous voyez que c'est vrai, la taille du bilan de la Banque centrale est très élevée, mais il y a aussi des revenus que les banques font parce qu'ils ont pris des risques sur la partie des actifs. Ils gagnent donc un prime au risque, un certain taux d'intérêt sur ces risques qu'ils ont pris, sur ces titres qu'ils ont achetés. Et donc, ça, bon, ça revient aussi à des revenus. Évidemment, il y a aussi les risques, donc il y a la possibilité dans laquelle les choses vont mal se tourner, et donc l'Italie fait faillite et tout ça. Donc, ça comportera aussi une perte pour la Banque de France. Pour la Banque de France. Donc, maintenant, quelle est la relation entre la Banque de France et la BCE? Donc, si la BCE réalise des bénéfices, un certain montant qui est déterminé par le Conseil des gouverneurs est versé au fonds de réserve générale. Les restes sont transférés aux banques centrales nationales en fonction donc, de la clé du capital, donc du PIB et de la population. Si la BCE subit une perte, elle sera d'abord imputée au fonds de réserve générale et si le conseil des gouverneurs en convient, au revenu monétaire proportionnellement à la clé de répartition du capital. Donc ici, vous voyez les profits de la BCE. Aussi, la BCE fait des profits, mais évidemment, c'est beaucoup plus petit des profits de la Banque de France. Regardez, la Banque de France, c'est des milliards et ici, c'est beaucoup plus petit, c'est des millions. Et évidemment, parce que quand on pense à l'ensemble des banques, à l'euro, on doit penser à l'ensemble des banques centrales, donc à l'eurosystème, et pas à la BCE, parce que les opérations des politiques monétaires, qui sont donc les opérations sur lesquelles les banques centrales gagnent de l'argent, sont faites au niveau national. Mais les pertes et les revenus sont après partagé. Donc, on est dans une fédération dans laquelle on partage, dans une certaine mesure, des risques. C'est les risques-là. Hein, on ne partage pas autres risques, mais on les partage. OK. Donc, ça, c'est les profits de la BCE. Ça, c'est les profits des banques centrales, ça, 2016-2017. Ce n'est pas un rapport au PIB. Hein, la France, l'Italie, ils font beaucoup de profits parce qu'elles sont grandes, mais elles font, en fait, plus de profits que l'Allemagne. Évidemment, pourquoi? Parce que les titres français et italiens ont un taux d'intérêt plus élevé parce qu'ils sont plus risqués que les titres allemands. OK. Avant la crise, les bilans des banques centrales étaient petits et donc il y avait des petites réserves. Du côté des actifs, on avait des actifs non risqués, donc les bouts des banques centrales, ce n'est pas de faire de l'argent en prenant du risque, hein, parce que donc, les bouts des banques centrales, c'est de faire de la politique monétaire et de garantir la stabilité des prix. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient avant la crise? Ils achetaient des titres privés et uniquement des obligations d'État à court terme, correspondant approximativement au montant des réserves en circulation. Et la politique monétaire était faite en fixant les taux d'intérêt à court terme. Les bilans reflétaient simplement la demande des réserves de la part des banques. Et la politique monétaire et fiscale était indépendante. Donc, selon les premiers cas de mes des exemples stylisés que j'ai fait. Et les seigneurages étaient sans importance pour le gouvernement parce qu'ils étaient petits par rapport au bilan du Trésor, dans une situation d'inflation très bas comme on a eu dans les derniers 20 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Que le bilan est beaucoup plus grand, les réserves sont beaucoup plus élevées, mais les réserves ne sont pas forcément inflationnistes parce qu'on paye un taux d'intérêt sur les réserves. Ça, c'est un truc un peu plus compliqué à expliquer que je vais expliquer la prochaine fois. Okay? Pas la prochaine fois, dans deux fois, quand je parlerai des risques précis de la Banque centrale. Donc, les actifs sont plus risqués et il existe donc un plus grand risque de perte potentielle. Et donc un risque plus grand, plus important des possibilités de capital négatif et donc des possibilités que la Banque centrale va demander d'être recapitalisée à l'État de l'État. Dans les cas dans lesquels pourrait se matérialiser la situation de capital négatif, donc la banque centrale peut vendre des titres, donc il a beaucoup de titres à vendre, donc ça, pas de problème. Il peut augmenter des réserves. Le problème, c'est la possibilité que l'inflation augmente. Mais on a vu que dans les dernières années, les réserves ont augmenté beaucoup, mais l'inflation n'est pas augmentée. Et donc, on doit comprendre ça. Et la troisième chose qu'elle peut faire, si l'inflation n'augmente pas en augmentant les réserves, donc, c'est demander au Trésor d'être recapitalisé. Donc ça, c'est le vrai risque aujourd'hui, c'est cette troisième possibilité. Parce que si la Banque centrale demande au Trésor d'être recapitalisé, il y a alors là la possibilité d'une perte d'indépendance de la banque centrale, parce que donc elle sera dans une situation de possible domination budgétaire. Donc, qui correspond à mon cas, au deuxième cas, dans mon petit schéma d'interaction entre politique monétaire et politique fiscale. Donc, en fait, des banques centrales avec des capitaux négatifs qui sont dans la situation de devoir demander plus de capital à leur gouvernement sont des banques centrales qui perdent de crédibilité et donc qui perdent l'assurance de pouvoir conduire leur politique de façon indépendante par rapport au Trésor. Et donc, ça, c'est vraiment l'aspect sur lequel il faut réfléchir quand on réfléchit à les dernières années et donc au gonflement du bilan de nos banques centrales. Donc, pour ce qui concerne ces premières parties, j'ai quelques points à apporter. La première, c'est que pendant les crises, le bilan de la banque centrale s'est gonflé. L'expansion est problématique si elle génère de l'inflation ou si elle implique une relation avec les trésors qui peut compromettre l'indépendance. Ce sont des situations limites, peu susceptibles de se matérialiser. C'est les institutions fiscales et monétaires sont saines et donc s'y poursuivent des objectifs raisonnables. Mais évidemment, dans des situations de grand stress, si par exemple on devait faire face à une autre crise financière dans les prochaines années, donc ces situations peuvent être effectivement testées. Okay? Donc ces situations pourraient se matérialiser. Mais en général, au niveau du bilan qu'on a aujourd'hui, je ne pense pas que la situation est problématique, donc on va voir ça avec beaucoup plus d'exemples.